BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est presque midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité et ce retour d'optimisme sur les marchés financiers dans l'espoir d'un accord de paix au Moyen-Orient. Optimisme modéré, mais optimisme quand même. Les places européennes sont en légère hausse et côté pétrole, le baril de Brent est redescendu autour des 93$. Ça continue de se détendre aussi du côté du marché obligataire avec un 10 ans français autour des 3,5% et un 10 ans allemand sous les 3%. Car on a appris que les négociations de paix entre les Américains et les Iraniens qui semblait compromis ces derniers jours pourrait avoir repris. Des sources à Washington évoquent un cadre d'accord avec l'Iran qui prévoirait une extension de 60 jours du cessez-le-feu en cours, accord que Donald Trump n'aurait plus qu'à valider. Enfin, les choses se compliquent en revanche sur le front russe. La Roumanie dénonce une escalade grave et irresponsable de la part de Moscou. Le président roumain dit exiger une réponse ferme, coordonnée et proportionnée après la chute d'un drone russe la nuit dernière sur un immeuble résidentiel d'une ville proche du Danube. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les vendredis, ce ne sont pas les meilleurs professionnels de ce secteur de l'IMO, mais les meilleurs journalistes de ce secteur qui sont à mes côtés aujourd'hui. On a Guillaume Erard et Céline Coletto. Et au programme, comme tous les vendredis, évidemment, ça démarre à part le fameux topoto de la semaine. Guillaume en profitera d'ailleurs pour faire le tour des prêts bonifiés que proposent encore à ce stade nos chers amis banquiers. Également au programme de ces experts de l'IMO du vendredi, on parlera logement neuf à travers le formidable baromètre trouverunlogementneuf.com et empruntis que nous présentera Céline. On fera le bilan du prêt à taux zéro. On en profitera pour reparler d'ailleurs du PTZ famille proposé par une députée UDI. Débat enflammé à venir aussi sur l'encadrement des loyers. On va solder cette semaine folle sur l'encadrement et à mon avis ça va continuer hein, ces prochains jours, ces prochaines semaines, peut-être même à l'occasion de l'élection présidentielle, ça pourrait prêter. Peut-être être un sujet de débat. Et puis attention, on a une épidémie de combustion spontanée du côté des panneaux solaires. Je veux pas vous faire paniquer, Guillaume va nous aider à y voir plus clair en fin d'émission. Allez, on y va tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et donc à mes côtés, Céline Coletto, journaliste trouverunlogementneuf.com. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Et Guillaume Erard, journaliste Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marie.
Et évidemment, nos débats commencent comme tous les vendredis par...
Les experts de l'IMO, le topoto de la semaine.
Le topoto, mais oui, le topoto de la semaine. Bon, si je regarde globalement bon an mal an nos taux de crédit, ben on est toujours sur ce petit rythme haussier quoi. On va démarrer juin sur quoi, 3,5%, 3,55 peut-être sur 20 ans.
Oui, c'est ça, entre 3,4% sur 20 ans et 3,5% sur 25 hors assurance. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que à côté de ça, on a la possibilité de faire baisser ce taux, pourquoi pas en dessous des 3%, grâce à ce qu'on appelle les prêts à taux bonifiés. Alors, les prêts à taux bonifiés, c'est quoi? C'est des coups de pouce que vous propose la banque en complément de ce prêt principal sur une partie de votre prêt, donc ça peut être 10 000, ça peut être 20 000 euros, à des taux réduits, donc ça peut être 1%, 2%, voire 0%, le fameux prêt à taux zéro. Et donc, ça permet, bon an, mal an, d'avoir un taux global qui peut descendre en dessous des 3%. Alors, généralement, jusque-là, en tout cas, c'était réservé souvent à des catégories de population, les primo-accédants.
Les jeunes primo-accédants, en plus. Mais
il peut y en avoir des moins jeunes, mais ils sont plus rares.
Ça,
mais
bon. C'est ça.
Et des logements, alors, on va dire un peu une petite partie, parce que enfin assez réduite, c'est les fameux DPE A, B ou C, diagnostic de performance énergétique.
Des logements performants.
C'est plus rare. Et donc, en cumulant tous ces prêts avec la même banque, hein, pas différente, vous pouvez donc arriver à moins de 3%.
Mais même encore moins si en plus j'ai le PTZ de l'État. Hein.
Exactement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, ce que me disait un courtier, c'est qu'il y a des banques qui propose désormais des prêts à taux bonifiés à tous les emprunteurs, quel que soit l'âge, quel que soit le profil. Ils sont plus rares, mais il y en a qui arrivent.
C'est qui?
Alors, donc on peut se...
Mais oui, on va donner les noms des banques quand même.
Alors, notamment la Société Générale qui va lancer, parce que ça, c'est l'autre bonne nouvelle, c'est que toutes ces offres à taux réduit, normalement, devaient s'arrêter à la fin du premier semestre,
ouais.
Donc dans un mois. Et là, un courtier m'a annoncé que la Société Générale allait proposer pour tous les emprunteurs ce même type d'offres, mais pour le second semestre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que le second semestre, on s'était dit... Avec le contexte international, c'est un peu incertain.
Est-ce que c'est pas symptomatique aussi que le marché va pas très bien quand même, Guillaume, hein? C'est ça?
Ça, c'est vrai aussi. Alors, bon, là, les raisons sont un peu particulières. C'est qu'un banquier me disait, là, on a fait un mois de mai un peu cata avec les ponts, la météo. Ah, ouais. Donc, et du coup, bah, les délais de traitement des dossiers qui s'allongent. Donc, on a des objectifs de production qui sont pas respectés et donc il va falloir partir à la conquête de nouveaux clients.
Oui, parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique de tout ce qu'on se dit là depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'à force de dire, et c'est une réalité, que voilà, la situation géopolitique est tendue, qu'il y a un risque inflationniste, que les taux de crédit vont augmenter, il y a quand même un effet psychologique sur les gens qui se disent, ok, bah je laisse tomber parce que c'est pas possible. Et donc le contre-effet, quelque part, c'est que les banques vont aller essayer de chasser ces clients-là. Quoi.
Ce qui est plutôt le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a connu une période où c'était le contraire. Il y avait une demande, mais les banques avaient fermé le robinet. Là, c'est un peu le contraire.
Mais tant mieux, c'est un joli topoto que vous nous avez proposé aujourd'hui, Guillaume. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Bon, alors, les taux, on arrive à se débrouiller. Ok,
c'est plutôt ça.
Après, il faut qu'on regarde les prix, parce que ça compte. Et à trouverunlogementneuf.com, vous regardez les prix versus les taux, et vous arrivez à me dire si mon pouvoir d'achat pour le logement neuf, il est meilleur ou moins bon. On va pas se mentir, il est pas top.
Non, bah ça, on vous...
Enfin, il est pas top, ça dépend.
Ça dépend où, exactement. Avec Empruntis, donc nous avons passé au crible les 10 plus grandes villes françaises. Et là, effectivement, comme les taux sont finalement quand même plutôt stables depuis 6 mois, en tout cas, ils ont légèrement remonté, mais c'est pas ça qui joue.
Ouais, et puis sur le neuf, pour le coup, c'est ce qu'on se disait avec Guillaume, c'est que là, pour le coup, vous avez aussi les fameux prêts bonifiés.
Exactement, mais là, on a pris... le prix du 3 pièces, un prêt sur 20 ans, sans PTZ pour l'instant. C'est pour le grand public. Alors, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a 3 grandes villes qui baissent. Strasbourg, Toulouse, Montpellier. Et moi, sur quoi je voudrais insister...
Les prix baissent dans ces 3 villes-là.
Les prix baissent. Et en fait, c'est aussi le symbole que, quand même, on vient de changer de maire. Et c'était des municipalités, en tout cas pas dans celle-là, où on a beaucoup construit sur ces dernières années. Toulouse et Montpellier, par exemple, on était sur une mandature où il y avait un vrai effort de fait. Et on voit que quand il y a de l'offre en face, et ben les prix ont plutôt tendance à baisser. Donc c'est plutôt un bon signal. Ça veut dire que si on a des maires bâtisseurs, eh bien, on arrive à réguler les prix. On n'a pas besoin de faire tant que ça. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On peut dire aussi que Nantes affiche un prix du neuf. Ça devient la grande ville la moins chère de France.
Alors, on est à combien? Parce que sur ce...
260 000 euros pour un 3 pièces. Et ça fait une mensualité en dessous de 1 500 euros sans le PTZ, sans les prêts bénéficiés dont on pourrait mettre en place. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette édition. Alors oui, ça augmente, mais il faut faire attention. Ça augmente par exemple beaucoup à Lille, ça augmente beaucoup à Nice. Mais là, on est sur un marché de niche, il y a de moins en moins d'offres.
Juste quand même, vous nous donnez, Céline, le prix, parce qu'on a dit que on était à 260 000 ou 270 000, je ne sais plus, pour Nantes. Là, Paris, Nice, on est
Alors,
à combien?
Paris, on est au-dessus de 900 000 euros, mais... Bon, c'est un marché de niche. Il y a
Il y a
peu de programmes et il y a du haut de gamme. Et c'est le cas aussi à Nice. Les prix se sont beaucoup envolés à Nice en 6 mois, mais parce qu'aujourd'hui, on a sur Nice un programme d'exception où vous achetez un 3 pièces à plus d'1 million d'euros. Donc forcément, comme en face, il n'y a pas beaucoup d'offres, moins cher, on va dire, forcément, la moyenne, elle s'envole. Attention, il y a toujours des solutions. Il y a le prêt à taux zéro, il y a les prêts bonifiés, et tout ça vous permet de faire baisser votre mensualité. En tout cas, bon, c'est quand même une bonne nouvelle parce que voilà, on voit que quand on met de l'offre, quand les promos...
Ça régule un peu les prix.
Les prix, exactement. Et puis, à noter aussi que là, dans le petit profil qu'on a fait des emprunteurs, les investisseurs reviennent. On est à 9% d'investisseurs dans le neuf chez nos confrères d'Empruntis. Et donc, ça veut dire que l'investissement Jeanbrun.
Est-ce que le Jeanbrun commence un peu à...
Ben écoutez, en tout cas, les promoteurs, ça décolle tout doucement. Non, hein, on est bien d'accord.
On rappelle quand même les chiffres de la Fédé des promoteurs immobiliers il y a une dizaine dizaine de jours, ils n'étaient pas bons. Hein,
Alors, ils n'étaient pas bons, mais il faut c'est un dispositif qui date que de fin février.
Ouais.
Il faut du temps. Il faut que les
Et puis les modifications sont récentes là.
Alors, sont très 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 récentes, mais il faut déjà que les banques comprennent comment ça fonctionne, que les promoteurs aussi comprennent comment ça fonctionne. Mais c'est un nouveau dispositif.
Mais non, bien sûr.
Il faut l'expliquer au grand public. Et là, on voit Nexity qui annonce 120 réservations à fin mai avec ce dispositif, Vinci une trentaine, etc. Vinci Immobilier. Donc ça prend son envol doucement, mais sûrement. C'est un investissement patrimonial. Ouais. Il faut du temps pour l'expliquer. Et donc ça, en tout cas, ça prend.
Laissons le temps au temps.
Exactement.
Mais c'est vrai qu'il y avait un vrai sujet, et je sais que Pascal Boulanger alertait aussi vachement là-dessus en disant le dispositif est bien, mais attention quand même, on parlait de l'effet psychologique lié au déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Il y a quand même eu ça aussi. Alors, ils ont l'habitude, les promoteurs, c'est ce qu'ils répètent à longueur de temps en disant on en a traversé des crises, mais enfin, ça tombe chaque fois au pire moment.
Exactement.
Bon, après, il n'y a pas de bon moment pour faire la guerre, hein, les gars, mais voilà.
Non, mais en plus, c'est souvent, en plus, au début du printemps, la période.
Le printemps de l'immobilier. Mais justement, les promoteurs. Les banques, tout le monde est optimiste et le robinet du crédit est ouvert, on l'a dit. Mais les promoteurs aussi, ils continuent à faire des opérations commerciales, etc. Donc la fenêtre de tir, là, en ce moment, elle est plutôt quand même optimiste dans le sens où on est sur une période, et on vous l'avait dit, je vous l'ai dit déjà ici, que les prix du neuf, ils allaient certainement repartir à la hausse. On a une nouvelle seuil de réglementaire en termes de normes environnementales, avec la RE 2020, mais donc le seuil 25. Ensuite, on aura le seuil 2028. On a peut-être des coûts de construction qui vont réaugmenter à cause justement de cette incertitude géopolitique. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre actuellement.
Le conseil de Céline. Bon, c'était plutôt apaisé jusque-là. Les choses risquent de se compliquer. Pourquoi ? Parce que quand on parle encadrement des loyers, on est forcément toujours un petit peu sur des débats enflammés. On l'a tous vécu cette semaine. Alors, pourquoi on reparle de l'encadrement des loyers ? Parce qu'il y a eu un rapport qui a été publié, rapport qui devait servir de base au gouvernement pour savoir si on allait prolonger ou non, pérenniser ou non le dispositif, puisqu'on rappelle, novembre prochain, l'encadrement est censé s'éteindre. Donc, ce rapport, il nous dit quoi, Guillaume ? Et pensez-vous, après, c'est une question et une réponse que vous allez nous donner à point de vue personnel, que le gouvernement risque de s'en servir, je dis risque ou pas d'ailleurs, pourrait s'en servir pour ne pas justement prolonger le dispositif.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit plusieurs choses. Déjà, il y a deux éléments qui étaient très attendus parce que les débats tournaient autour de deux choses. Est-ce que ça fait baisser ou pas les prix ? Est-ce que ça assèche ou pas le marché locatif ? Sur le premier point, ils nous disent quoi, les auteurs, en sachant que donc ce sont deux économistes, et c'est important quand même de le préciser, c'est un rapport qui a été commandé par Matignon, mais c'est deux économistes indépendants. Donc c'est pas du tout Matignon qui dit ce qu'il fallait écrire à l'intérieur, etc., etc. Ils nous disent, ils ont constaté une baisse en moyenne entre 2 et 4% des loyers sur dans les villes qui ont encadré les loyers. Alors, certains diront bah c'est bien parce que ça prouve que l'objectif est réussi, d'autres diront bah par rapport aux attentes que ça suscitait, c'est pas énorme en fait. On s'attendait peut-être à une baisse à deux chiffres ou ce qui est intéressant et à la fois un peu difficile à analyser, c'est qu'on nous dit c'est lié à l'encadrement des loyers, mais ça peut être lié à d'autres facteurs. Ils prennent par exemple l'exemple du Covid. Par exemple, Paris, qui a été la première ville à encadrer les loyers, a mis en place l'encadrement des loyers en 2019. Un an plus tard, il y a eu le Covid, donc il y a eu moins de demandes. Et donc, forcément, les loyers ont eu tendance à baisser sur une courte période.
Ouais.
Donc, ils avancent cette facteur-là.
Guillaume, sur cette partie-là, alors encore une fois, certains sur les réseaux sociaux m'expliquent que parce que je suis locataire, je serai partie prenante. Mais quand même, je pose la question parce que j'ai mon expérience et celle d'autres locataires. Mon loyer, il n'a pas baissé depuis l'encadrement des loyers, hein. Enfin, je le dis à titre personnel.
Parce que c'est à la relocation. Donc,
et
forcément,
il ne peut pas
avoir bougé puisque vous êtes en cours de bail et il y a un IRS.
Alors, non, j'ai changé entre temps.
Ah bon, alors.
Et
okay,
pour une même surface et mon loyer était plus élevé du coup. mais tout ça pour dire que, est-ce que c'est pas plus une espèce de correction sur certains excès, finalement une baisse générale, parce que c'est ça aussi ce sujet de, le but initial de l'encadrement était pas forcément de faire baisser les loyers, mais d'empêcher qu'ils ne flambent de trop et de corriger
la
gourmandise de certains propriétaires.
Oui, sans doute. Alors après, il y a la question de l'offre locative.
Et c'est là qu'on n'est pas d'accord.
Et donc, du coup, le rapport, il nous dit quoi? Il nous dit, alors si je me souviens bien, c'était hors Île-de-France, baisse de l'offre locative de 8%. Là encore, lié à l'encadrement des loyers, mais lié, je les cite, à une augmentation de la durée d'occupation des locataires. Ouais. Qui fait que du coup, bah, il y a moins de rotation.
Ouais.
Et alors, à Paris, là, c'est le contraire. Ils ont constaté une augmentation, ce qui est pour le coup assez peu vraisemblable,
oui.
Une augmentation du nombre de
c'est d'annonces. C'est impossible, ce chiffre est
d'ailleurs,
faux.
Les notaires du Grand Paris, hier, ont annoncé qu'il y avait l'offre locative qui avait baissé de 15%.
Non, mais même la mairie de Paris, qui n'aurait pas d'intérêt à nous dire que l'offre locative a baissé, reconnaît que l'offre locative a baissé, et massivement.
Mettons que sur ces deux points, ok, c'est difficile de trancher. En revanche, et ça... Sauf erreur, dites-moi si je me trompe.
Mais oui, de base, on va le dire.
Je ne l'ai pas vu dans le débat. Il y a quand même deux effets surprises qui sont, un peu négatifs. Le premier, c'est qu'on a constaté, les auteurs du rapport ont constaté une dégradation du parc locatif. Pourquoi? Parce que les propriétaires ayant moins de revenus locatifs ont moins de sous pour faire les travaux nécessaires en cas de rénovation. Donc, dégradation du parc locatif. Et deuxièmement, là aussi, ce n'est pas un sujet qui avait été abordé et qui est plutôt contre-intuitif. Ce sont surtout des locataires aisés qui ont bénéficié, je vous vois hocher de la tête.
Ah non, mais ça c'est...
Après, il y a des chiffres quand même.
Mais des locataires aisés, pourquoi des locataires aisés?
Et qui sont déjà, en place. Donc,
en fait, de toute façon, on a brisé le parcours résidentiel des Français.
Non, mais à un moment donné...
On a fait peur aux investisseurs. Parce que, en fait, aujourd'hui, là, vous êtes dans une... Je sais, parce qu'on a pris l'exemple beaucoup cette semaine de Nice, où effectivement, l'offre locative a baissé.
Sauf autant qu'en fait, qu'à Paris, vous pour savez... autant, Nice n'est toujours pas encadré.
Comme on va donner le pouvoir, et le pouvoir, il est au maire. Sur
ah oui, mais c'est sûr qu'Éric Ciotti meurt d'envie d'encadrer les loyers. Enfin,
c'est un exemple. Aujourd'hui, vous êtes investisseur. Vous savez... Peut-être Éric Ciotti, c'est là pour les 6 prochaines années, mais quid de la prochaine fois? Donc, si vous achetez un logement neuf, un logement même pour le louer en tant qu'investisseur,
mais la vérité,
fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez un encadrement à Grenoble, à Paris.
Mais la vérité, c'est que c'est pas l'encadrement qui détruit l'offre aujourd'hui.
C'est un ensemble.
C'est la fiscalité.
C'est pour ça qu'il faut construire des logements pour qu'il y ait plus d'offres.
Mais bien sûr,
c'est
pour ça.
Mais l'un n'empêche pas. C'est un ensemble de choses.
C'est vu comme une contrainte. C'est-à-dire que le propriétaire, il va vous dire, moi je suis désolé, droit de propriété, je fais ce que je veux. Alors après, il y a des abus, ça on est d'accord, et d'ailleurs le rapport le reconnaît, un tiers des propriétaires qui contournent l'encadrement des loyers.
Ah bah oui, si vous voulez, je peux vous ressortir des exemples de compléments de loyer, donc ce qui permet aux propriétaires...
Mais on le sait bien.
Ben non, mais je vous en donne un, regardez, il y a des plateformes qui sont spécialistes des mauvais compléments de loyer.
Le complément de loyer est légal.
Oui, à condition de le justifier, parce que là, pour le coup, moi je vous ai trouvé un 13 mètres carrés, un studio de 13 mètres carrés, rez-de-chaussée, La Chapelle Max Dormois dans le 18e arrondissement de Paris, loué 850 €. Si la personne respectait l'encadrement, ce loyer devrait être à 455 € ou un truc comme ça. Et type, ils mettent un complément de loyer.
Mais là, dans ce cas-là,
il faut
que les collectivités fassent leur travail de vérifier.
Une cuisine équipée.
C'est ça.
C'est aux mairies qui mettent en place l'encadrement de faire respecter les règles. Bien sûr que ça prouve, mais il y aura toujours des propriétaires pas sérieux.
C'est bien d'encadrer Airbnb.
Ah, mais ça, il y a des trous dans la raquette, on est d'accord.
C'est bien d'encadrer Airbnb. Le problème, c'est qu'avec tout l'argent que les maires récupèrent des procès qu'ils peuvent gagner, pourquoi ils n'utilisent pas cet argent pour engager plus de...
Ah, il faudrait davantage de contrôle là-dessus.
De contrôle.
Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord.
C'est un ensemble de choses, en fait, là, aujourd'hui, en fait, on se focalise sur l'encadrement des loyers. Ouais. Mais ça crée aussi on l'a dit, moins de travaux, parce que l'investisseur, il se dit,
Ah bah c'est sûr, 13 mètres carrés, 850 euros par mois, il n'a pas le temps de faire les travaux, les travaux.
Aujourd'hui, c'est important qu'on ait des investisseurs, des propriétaires bailleurs qui mettent en location leur logement.
Mais on est d'accord. Et d'ailleurs,
c'est pas normal, effectivement,
cette réflexion du Jean Brun qui est sorti, qui doit être encore
parce
un peu corrigée.
Parce que sans propriétaire, il n'y a pas de locataire.
Mais bien sûr,
il n'y a pas de parcours résidentiel.
On est d'accord. Il faut, de toute façon, ça fait des années. Souvenez-vous, l'ancien député Michael Nogal avait une proposition de loi
sur les rapports locatifs,
sur rapprocher les propriétaires et les locataires.
Mais bien sûr.
Bon, ça date de 6 ans, mais c'est une question de confiance. Le problème, c'est qu'il y a plus de confiance entre les deux parties. Et pardon, mais les élus politiques n'aident pas. Pourquoi? Parce que on va peut-être prendre un peu la part de responsabilité, les médias aussi peut-être. On met trop d'idéologie dans le logement. À un moment donné, il y a une urgence.
Mais je suis
d'accord. C'est de loger les gens.
Mais bien sûr.
Il faut On parlait tout à l'heure de couleur politique, mais aujourd'hui, le logement, ça doit être une priorité nationale.
Mais vous savez que quand on a fait, je fais l'autopromo de notre sondage avec Odoxa, Next City et Gaël Slimane, je l'ai rappelé justement cette semaine, parce qu'on avait interrogé les Français sur leur avis autour de l'encadrement des loyers, qu'ils soient propriétaires ou locataires. On avait une adhésion massive, toutes couleurs politiques confondues, à 71% pour l'encadrement des loyers. Et quand on rentre dans le détail, à gauche, on est au-delà de 70%, 80%, 90%. Droite, centre-droite, on est autour de 60%. Et à l'extrême droite, on monte à 75%. Et ça, je vous dis, indépendamment qu'on soit propriétaire...
75% pour,
favorable. D'accord. Il y a une majorité de Français,
oui, en fait,
interrogés
pourquoi,
par Odoxa,
qui
sont favorables.
Pourquoi on en arrive là ? Parce que les gens, bien sûr, n'arrivent pas à se loger.
Mais bien sûr.
Et pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offres neuves, parce qu'il y a des passoires énergétiques. Et si on veut aller dans le même sens,
il faut
que les investisseurs, les bailleurs, ils puissent faire les travaux. Il faut qu'il y ait de l'offre neuve, parce que justement, si on a de l'offre neuve en face, eh ben, ça permet de rééquilibrer. Quand vous avez une passoire énergétique, vous avez le choix entre une passoire énergétique dans l'ancien ou un logement neuf plafonné, parce que quand on était en Pinel, on avait du logement avec des loyers plafonnés.
Ouais.
Le Jean Brun, c'est le cas aussi. Eh ben, ça permet de rééquilibrer choses.
On est d'accord. Maintenant, après, il faudra voir ce qu'on fait d'ici novembre, hein, si le gouvernement décide ou pas.
Pour l'instant, la position, c'est de dire le gouvernement ne légiférera pas. Enfin,
de toute façon, il n'y a pas les cartes pour le faire.
Et de toute façon, je pense qu'ils sont défavorables par rapport à ça. Il y a une concertation qui aura lieu avec les élus. On va voir ce que ça donne. Mais donc, pour l'instant,
Henri Buzicazo, qu'on connaît bien tous, me disait hier au téléphone que l'encadrement des loyers, c'est un peu comme les 35 heures que même ses opposants auraient du mal à assumer politiquement sa disparition.
Bien sûr.
Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, la conviction d'un certain nombre d'élus, c'est qu'effectivement, le gouvernement va essayer de jouer la montre, peut-être un ajustement technique pour pas que ça disparaisse dans les villes qui l'ont adopté, et laisser finalement le sujet être réglé à l'occasion de l'élection présidentielle. Donc on aura largement le temps.
Présidentielle et surtout parlementaire, parce que là, c'est là où il y aura pas.
Enfin, je rappelle qu'ils avaient déjà voté. Enfin, à l'Assemblée nationale, ils avaient déjà voté la pérennisation du dispositif. Hein. C'est juste que ça n'a pas poursuivi le process législatif. Bref, on n'aura pas le temps de tout aborder. Passons à notre prêt à taux zéro qui lui fait l'unanimité parce qu'il est hachement bien, notre prêt à taux zéro.
Oui, il est effectivement. Alors, sur Trouver un logement neuf, on a publié cette semaine le bilan 2025 des chiffres officiels du nombre de prêts à taux zéro délivrés l'année dernière.
Ouais.
Et donc, il y a eu, je vous rappelle, un élargissement du prêt à taux zéro depuis le 1er avril 2025.
Aux maisons neuves.
Aux maisons neuves, mais aussi aux zones détendues. Et on voit tout de suite que dès le deuxième trimestre, on a doublé en un trimestre le nombre de PTZ délivrés. Et surtout, entre le premier trimestre où on avait à peu près 3300 PTZ dans le neuf, on est passé à plus de 19 000 en fin d'année au dernier trimestre. Donc ça veut dire que ça a été augmenté par plus de 480%. Donc preuve que c'est un vrai booster pour les gens qui achètent dans le neuf. On est passé du coup, on avait 48% de PTZ dans le neuf avant la réforme et on est passé à 68%. Donc c'est un vrai effet booster.
Ouais.
Et surtout, ce qui est l'effet booster, c'est que ça a permis de rajeunir l'âge des emprunteurs. On est passé de 42% à 38%.
À 38 ans.
Un taux d'effort aussi.
Enfin, 42, c'est jeune aussi. Hein.
C'est très jeune, Harry, pas de problème. On était à 28%. De taux d'effort, on est passé 35 à 28, donc ça c'est aussi la bonne nouvelle, c'est-à-dire que
ça permet de
financer des ménages qui ne l'étaient pas forcément, et d'ailleurs 35% des ménages qui ont reçu un PTZ gagnaient moins de 30 000 euros par an, donc ce n'est pas beaucoup quand vous êtes un couple, etc.
Ouais,
donc ça c'est vraiment la très 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 bonne nouvelle de ces chiffres, et ça prouve qu'il y a un vrai effet booster du PTZ. Par exemple, les maisons, on est passé de 20 à 30% dans le neuf.
Ouais, bien
donc,
sûr.
Et oui, parce que ça coûte moins cher d'acheter et de faire construire une maison en zone rurale. Et comme ça a été réouvert aux zones détendues, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on met en place un dispositif qui existe déjà, que les banques et les constructeurs et promoteurs connaissent bien, et que le grand public aussi connaît bien, hop, tout de suite, il y a un effet positif.
Et manquerait plus, parce que vous voulez nous le rajouter rapidement quand même, nous en reparler, mais manquerait plus qu'en plus, on ait ce petit PTZ famille PTZ à 100 000 euros.
Exactement.
Pour nous inciter
alors,
à faire
ça,
des
c'est
enfants.
Une, c'est une députée Lyotte du Loiret qui a fait une proposition de loi qui voudrait créer un prêt à taux zéro de 100 000 euros rechargeable dès la déclaration de naissance jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Et donc, ça permettrait effectivement d'un côté de soutenir la démographie française, mais aussi du coup de faciliter le changement de logement quand on accueille des enfants.
Ou alors mais, l'agrandissement, parce que l'agrandissement, je crois que ça permet
oui, ça, c'est, voilà, c'est rechargeable, donc à chaque enfant vous pourrez bénéficier de ça. Ils ont aussi fait une proposition sur la portabilité des prêts, ça aussi c'est une forte demande. Quand vous avez emprunté il y a 5 ans pour acheter votre petit logement, entre guillemets, quand vous étiez un couple, vous puissiez continuer à bénéficier. On sait que c'est très compliqué.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je regarder en disant bien c'est sûr, mignon, c'est
mais,
mignon.
Mais oui, c'est, les banques
c'est
n'en veulent pas.
Ouais,
les banques n'en veulent pas, mais ça n'empêche qu'après, on peut avoir des parlementaires qui s'emparent de ce sujet. Ça serait une très très bonne nouvelle. Il faut quand même savoir qu'il y a 16% de suroccupation des logements en général dans la population française, et on monte à 43% quand on commence à être dans des familles nombreuses.
Mais bien sûr.
Donc ça veut bien dire
bien
que les logements, ils sont suroccupés.
Ouais, c'est ça. Constance de Pellichy, la députée, elle disait que quand elle avait fait sa mission là sur la natalité, elle s'est rendue compte effectivement du lien énorme entre l'absence de logement adapté et le fait qu'on fasse moins d'enfants.
On en avait parlé déjà à ma précédente venue, mais effectivement les études se multiplient. Alors c'est clair et net. Les études en France, aux États-Unis, mettent en rapport ce lien logement et démographie.
Ça serait bien que nos politiques n'oublient pas que l'immobilier, c'est pas que des chiffres ou de la rentabilité, mais c'est
exactement.
Aussi du sociétal quand même.
Et du social aussi.
Mais quand votre logement est suroccupé,
c'est horrible de dire je vais pas acheter un logement, je vais pas faire d'enfants parce que l'immobilier est trop cher.
Bien sûr, ça va de soi en même temps. C'est logique malheureusement.
Bon, on fait peur aux gens là ou pas?
Non.
Mais il nous reste moins de 3 minutes pour parler de ça. Des panneaux solaires qui prennent feu. Vous avez adoré.
D'un autre côté, pardon, avec ces chaleurs, les incendies, on les a souvent plus dans les forêts l'été.
Ouais.
Mais bon, en tout cas, c'est un peu de, entre guillemets, de saison. Non, pas de psychose, c'est quand même très rare. Mais
ça arrive.
Ça arrive et c'est quand même arrivé un certain nombre de fois ces derniers temps. Donc c'est pour ça qu'on s'est quand même posé la question, mais est-ce que c'est dangereux ?
Ils viennent d'où ces panneaux solaires ? Est-ce qu'il y a un problème de provenance ?
Ouais. Il n'y a pas de problème de provenance. En fait, il y a deux responsabilités. C'est l'installation, tout simplement. C'est un mauvais raccordement.
Ouais.
Le professionnel n'a pas estimé aussi la capacité du toit à supporter le poids du panneau et ça peut créer des défauts d'étanchéité. Quelque chose aussi qu'un assureur me disait, parce que lui a constaté en effet, sans me donner de chiffres, mais de plus en plus d'incendies liés à des panneaux et donc des signalements, des réclamations. Il me disait souvent c'était lié à la proximité entre le panneau et la cheminée. Parce que la cheminée, du coup, elle faisait de l'ombre à un ou deux carreaux.
Ouais.
Et un professionnel m'expliquait qu'il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soit à l'ombre, contrairement aux autres, et du coup ça dérègle complètement le panneau en fait. Et il me dit.
Non mais Guillaume, c'est intéressant. Ça, mais ça veut dire que si je mets mon panneau solaire et qu'il y a une petite ombre à un moment, c'est risqué. Enfin,
il
ça veut dire n'importe quoi.
Éviter la
l'histoire.
Proximité avec les cheminées.
Une ombre permanente, j'imagine.
Oui,
pas une
ombre permanente,
qui bouge,
bien sûr,
ouais,
exactement.
Ça.
Parce que en fait, il me dit, j'aimais bien le comparatif, c'est un panneau, c'est un puzzle. Et si les composantes sont mal assemblées, en fait. Il y a une forme de montée en température et qui fait que ça peut générer des incendies. Après, c'est donc un dysfonctionnement électrique, etc., etc. Donc responsabilité de l'installateur. Et puis, faut pas oublier que c'est pas simplement une installation. Enfin, un panneau, c'est pas une installation, c'est aussi un entretien.
Ouais.
Et il m'expliquait aussi qu'il a eu des cas où c'était lié au fait qu'il y ait pas de nettoyage du panneau. Du coup, il y a de l'encrassement qui s'entasse.
Faut le nettoyer tous les combien ?
Tous les ans. Enfin,
tous les ans, il faut nettoyer ces panneaux solaires.
Tous les ans.
Et juste une question, une fois que l'incendie est là et que qui est responsable en fait et qu'est-ce que je peux réclamer ? C'est quoi qui me couvre ?
Alors déjà, faut voir si vous êtes couvert par une garantie incendie. Alors l'assureur que j'ai au téléphone me dit, c'est pas forcément écrit noir sur blanc que dans votre garantie il y a marqué incendie de panneaux solaires. Donc dans l'idéal, avant d'installer un panneau, ce serait bien de prévenir en amont l'assureur. Si c'est pas possible, d'apporter des preuves justement de votre bonne foi. Et si la responsabilité de l'installateur est prouvée, bah, du coup, votre assurance se retournera contre l'assureur de l'installateur. Mais vraiment, encore une fois, et puis, il y a autre chose, ça c'est un peu dans l'air du temps, c'est j'installe moi-même.
Oui, mais il y en a plein des plug and play, là, des gens qui installent un panneau, deux panneaux dans leur jardin.
Je ne vais pas les défendre, mais le problème, c'est que ce qu'on m'expliquait aussi, c'est que si vous avez des installateurs qui ne sont pas très professionnels et qui installent n'importe comment votre panneau, je peux comprendre qu'à un moment donné, au-delà des économies que vous pouvez générer, c'est de se dire, bon, bah, je vais le faire moi-même.
Ouais, bien
sauf
sûr.
Que là, c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est quand même un panneau, il y a de l'électricité, c'est du solaire, donc...
Ah, il est en train de dissuader les gens.
Non, il ne dissuade pas. La preuve, le parc est en train de grandir.
De grandir, et on en reparlera des panneaux solaires.
Mais donc, il faut faire gaffe, quoi, en fait.
Mais c'était bien.
Mais pas de psychose.
Mais pas de psychose. Et au pire, appelez Guillaume, il va vous expliquer comment installer votre panneau solaire. Merci à tous les deux. Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro, et Céline Coletto, journaliste à trouver un logement 9.com, d'avoir été avec nous dans les experts de l'IMO. On revient lundi sur BFM Business. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.